des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil pour vous présenter une nouvelle fois ce balado consacré au livre audio qui porte le titre bien révélateur de « Des livres pleins les oreilles ». Nous sommes certainement dans la semaine du 19 au 20 mars lorsque vous allez écouter ce balado-là, mais vous savez que de toute façon, comme son nom l'indique, vous pourrez l'écouter, le réécouter ou même réécouter tous ceux que vous avez ratés sur les plateformes qui diffusent ce balado, autrement dit, ben, quasiment toutes, que ce soit celle-ci. Évidemment sur Canal M, mais ce que je veux dire aussi, bon, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube même. Alors, c'est vraiment très facile de nous écouter. Cette semaine, il y a des histoires tellement tordues, tellement navrantes, tellement douloureuses, tellement invraisemblables qu'on n'oserait même pas les écrire et pourtant. On va commencer l'émission avec le nom et l'histoire d'une femme dont on a parlé bien au-delà de l'Atlantique. Tout cela s'est déroulé en Europe, en France plus précisément, où ça a fait la une des journaux, mais ici aussi on en a parlé et ici aussi ça a fait la une de quelques journaux. Je vous en reparle dans quelques secondes. Aussi à l'affiche dans ce balado, La saison des feux, Fille-mère, écrit et lu par Ingrid Falaise, L'histoire immuable de la Bible dont les ventes explosent dans le monde chez les 18-24 ans. Et puis, un livre aussi porté au cinéma et encore sur nos écrans, tout auréolé de ces Césars, La petite dernière. En seconde partie, on va retrouver Gérald Cousineau et on finira l'émission en écoutant quelques extraits de nouveautés, des bonnes nouveautés. En plus, j'ai bien hâte de vous les présenter. Mais d'abord, cette voix. Ce nom.
Bonjour à tous. Je suis Gisèle Pellicot et je vous remercie de prendre le temps d'écouter mon histoire. Je suis heureuse de vous la confier. Ce livre, je l'ai écrit avec la romancière Judith Pérignon. Avec elle, j'ai mis mon âme à nu. Ensemble, nous avons trouvé les mots pour dire ce que j'avais traversé. Pour dire que je n'ai honte de rien, que je suis vivante. Et que j'ai retrouvé la joie de vivre. À travers ces pages, et désormais à travers la voix d'Odile Cohen, j'ai souhaité vous transmettre un message d'espoir et de courage. J'espère que ce récit saura vous accompagner. Bonne écoute.
Qui d'autre que Madame Pellicot elle-même pour nous présenter ce livre ? Faut-il le rappeler ? Peut-être. Ça vous a peut-être échappé dans l'actualité, mais cette femme-là, pendant 9 ans, son mari Dominique Pellicot l'a soumise à des produits chimiques à son insu, dans son sommeil, afin de la violer et de la faire violer par d'autres hommes. Quand je vous dis que c'est sordide, là, ce sont des faits qui ont été mis au jour en 2020. Bêtement, en plus, il a fallu que le mari, un jour, commette l'erreur d'aller photographier les dessous de quelques femmes. Je pense que c'était dans des escalators ou quelque chose du genre. Et il y a quelqu'un qui l'a dénoncé et c'est comme ça qu'ils sont remontés jusqu'à sa propre femme. On parle de combien, 70 ou 80 ? 46 ont été accusés de viols aggravés contre elle, donc des gens de l'entourage de cette famille-là. Et cette femme-là, ce qui nous a marqué beaucoup, c'est qu'elle a dit « Oui, je veux que ce procès-là soit public ». Autrement dit, toute la honte qu'elle a pu ressentir, il fallait qu'elle s'en délivre en sachant ce qui s'est passé à son insu, je vous le rappelle. Et son comportement pendant le procès a été celui d'une femme, d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, parmi les femmes qui sont victimes de violences, considèrent comme une icône, cette Madame Gisèle Pellicot. Et je pensais que maintenant que le livre est en audio, il était essentiel qu'on en parle. Le procès, c'était en 2024 à Mazan. Mazan, c'est une petite ville, une petite bourgade française, relativement bourgeoise, quoique il y a aussi pas mal de ruralité. Alors, laissez-moi vous faire entendre un extrait de, non pas le calvaire qu'elle a vécu, parce que Mathieu, tu vas m'aider, le témoignage que nous avons et qu'on nous a envoyé, c'est celui de juste avant, quand elle ne sait pas encore ce que son mari lui a fait subir. Écoutez ça.
C'est toujours la veille que je dresse la table du petit déjeuner. Je dispose les tasses, les assiettes, les couverts, les serviettes, puis le miel et les pots de confiture. C'est comme enjamber la nuit que j'ai toujours crainte, décréter l'harmonie du prochain jour. Il n'y aura plus qu'à sortir le beurre, enclencher la bouilloire, laisser monter les odeurs du café et du pain qui grille. Tout va bien se passer. J'avais donc tout préparé ce soir-là. J'avais même sorti les vêtements de Dominique. Appelons-le Dominique. Je ne l'appelais jamais ainsi, je préférais la tendresse des diminutifs. Doumé, Mino. Puis je n'ai plus su comment le nommer. J'ai dit monsieur. Monsieur Pellicot. À l'heure d'écrire notre histoire, je choisis de l'appeler par son prénom. J'avais prévu son pantalon en velours vert bouteille et le polo Lacoste rose que les enfants lui avaient offert. Nous devions nous présenter le lendemain matin au commissariat. Le rendez-vous était fixé à 9h30. Nous avons bu notre café en écoutant les informations sur RTL. La pandémie mondiale de Covid repartait de plus belle en cet automne 2020. Un nouveau confinement entrait en vigueur. Je fixais le ciel à travers la fenêtre de la cuisine. Il faisait beau. J'ai proposé une longue balade dans l'après-midi, comme un contre-ordre aux injonctions du gouvernement et sûrement un remède à la convocation du matin. Dominique, assis en face de moi, n'a pas réagi. J'ai fait remarquer que mon frère Michel aurait eu 69 ans aujourd'hui, puisque nous étions le 2 novembre. Il a soupiré qu'il n'aimait pas novembre, que ce n'était jamais un bon mois. Allusion sans doute à toutes les factures et au rappel d'impayés qui allaient nous tomber dessus. Mes fantômes et nos problèmes d'argent ont donc brièvement plané dans la cuisine. Mais nous vivions avec depuis toujours, et d'une certaine manière, ils nous soudaient. Dominique est parti prendre sa douche tandis que je débarrassais la table. Au moment de quitter la maison, il a enfilé un blouson qui n'était pas du tout assorti aux vêtements que je lui avais préparés. Je le lui ai dit. Il a haussé les épaules. Nous avons pris ma voiture et roulé en direction du commissariat de Carpentras. 2 mois auparavant, Dominique avait été surpris par un agent de sécurité du Leclerc, en train de filmer sous les jupes de 3 femmes. Je me trouvais alors chez notre fille Caroline et son mari Pierre, en région parisienne, où je gardais mon petit-fils jusqu'à la rentrée scolaire. Nous étions ensuite partis passer le week-end dans leur maison de l'île de Ré. J'étais là-bas quand Dominique m'avait appelé d'une voix fébrile que je ne lui connaissais pas. Il bafouillait qu'il avait perdu son portable, qu'il avait besoin d'un code pour activer celui qu'il venait d'acheter. Et ce code, il l'avait fait envoyer à mon numéro. Je le lui avais donné, mais tout semblait subitement en désordre chez cet homme d'ordinaire si méthodique et organisé. Lorsqu'il était venu me chercher à la gare à mon retour, je l'avais trouvé amaigri.
Imaginez, pour cette femme-là encore, elle est à 10 000 lieues de s'imaginer de ce qui va lui tomber sur la tête. Bon, son mari a fait une connerie, une bêtise. Elle l'aime, c'est son mari. Elle a donc décidé de le supporter. Elle va avec lui au commissariat. Et puis voilà, quoi. Bon, et puis la vie va continuer. Et puis on va en parler. Et puis c'est tout. Mais c'est après que tout d'un coup, le chat va sortir du sac et qu'elle va découvrir le nombre d'années invraisemblables au cours desquelles elle a subi des viols absolument intégraux de la part de ces gens-là. Voilà, alors c'est un livre que je vous recommande parce que je me demande si je vous ai donné son titre. Le titre, c'est « Et la joie de vivre ». Titre choisi par Gisèle Pellicot parce que cette femme-là s'est complètement libérée de ce passé-là. Pardon. C'est vraiment un exemple pour les femmes qui ont souffert, qui souffrent encore et qui, hélas, souffriront. Permettez qu'on change, on reste dans une banlieue, mais dans un autre pays. On est à Shakerhead, une banlieue riche et tranquille de la région de Cleveland aux États-Unis, où tout est, c'est un petit peu une ville à vente, tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Il y a une femme qui s'appelle Elena Richardson, tout est à son image. C'est la femme au foyer, exemplaire, jusqu'à ce qui arrive chez elle, une mère célibataire, complètement bohème, donc on peut imaginer un petit peu bordélique, un petit peu tout ça, qui vient s'installer dans cette espèce de bulle idyllique avec sa fille Pearl. Le résumé qu'on m'en donne on me dit pas pourquoi elle débarque, mais ce que je sais, c'est qu'elle débarque. Et à partir de là, eh bien, le feu couve sous la surface polissée de cette riche banlieue américaine. C'est une comédie de mœurs avec une galerie de portraits de femmes plus poignants les uns que les autres. C'est aussi, nous dit-on, l'occasion, et c'est l'occasion pour l'auteur, de dresser un constat d'une jeunesse étonnante sur les rapports sociaux et familiaux d'aujourd'hui. Que peut bien venir faire cette femme mère ? Cette fille-mère, pardon, dans cette banlieue cossue des États-Unis où elle va mettre un bazar et le feu, tiens, notamment.
Les habitants de Shaker Heights sont très semblables à ceux du reste de l'Amérique. Ils ont peut-être 3 ou 4 voitures au lieu d'une ou deux et 2 téléviseurs au lieu d'un seul. Et quand une fille de Shaker Heights se marie, elle aura peut-être droit à une réception pour 800 personnes avec l'orchestre de Mayer Davis venu de New York, au lieu d'une réception pour 100 personnes avec un groupe local. Mais ce sont des différences de degré plus que des différences fondamentales. « Nous sommes des gens chaleureux et nous passons des moments merveilleux », déclarait récemment une femme au Country Club de Shaker Heights. Et elle avait raison, car les habitants de l'utopie semble en effet mener une vie plutôt heureuse. The Good Life in Shaker Heights, Cosmopolitan, mars 1963. Chapitre 1. Tout le monde à Shaker Heights en parlait cet été-là. Du fait qu'Isabelle, la dernière des enfants Richardson, avait finalement perdu la raison et mis le feu à la maison. Tous les ragots du printemps avaient tourné autour de la petite Mirabelle McCullough. Et maintenant, enfin, il y avait un nouveau sujet de conversation sensationnel. Peu après midi, ce samedi 2 mai, les clients qui poussaient leur caddie de course chez Heinen's avaient entendu les camions de pompiers se mettre à hurler et foncer vers la mare aux canards. À midi et quart, il y en avait 4. Garées en une file rouge désordonnée dans Parkland Drive, où chacune des 6 chambres de la maison des Richardson était en flammes. Et quiconque se trouvait dans un rayon de 800 mètres voyait la fumée qui s'élevait au-dessus des arbres comme un nuage d'orage noir et dense. Plus tard, on dirait que les cygnes avaient tout le temps été là. Kizzy était un peu cinglée, qu'il y avait toujours eu quelque chose qui clochait dans la famille Richardson. Que dès qu'ils avaient entendu les sirènes ce matin-là, ils avaient su qu'une chose terrible s'était produite. Alors, bien entendu, Izzy serait depuis longtemps partie, ne laissant derrière elle personne pour la défendre, et les gens pourraient, et ils ne s'en priveraient pas, dire tout ce qu'il leur plairait. À l'instant où les camions de pompiers étaient arrivés, cependant, et pendant un bon bout de temps par la suite, personne ne savait ce qui se passait. Les voisins s'étaient massés aussi près que possible de la barrière de fortune, une voiture de police garée de travers à quelques centaines de mètres, et avaient regardé les pompiers dérouler leurs lances avec la mine sombre d'hommes qui savaient que la cause était entendue. De l'autre côté de la rue, les oies de la mare plongeaient la tête sous l'eau en quête d'herbe, totalement indifférentes à l'agitation. Madame Richardson se tenait sur la pelouse arborée, serrant fermement le col de son peignoir bleu pâle. Bien qu'il fût midi passé, elle dormait encore quand les détecteurs de fumée avaient retenti. Elle s'était couchée tard et avait volontairement fait la grasse matinée, estimant qu'elle le méritait après une journée plutôt difficile. La veille au soir, elle avait regardé depuis une fenêtre à l'étage tandis qu'une voiture s'immobilisait finalement devant la maison.
Alors, dans la voiture qui s'immobilisait, il y aura la fameuse Mia Warren, cette mère célibataire et bohème qui vient fiche le bazar dans cette joyeuse petite ville de Shaker Heights. C'est signé Céleste NG, comme peut-être Nguyen, je pense que oui. Et c'était lu par Mickey Sébastien. J'ai oublié de vous dire que c'est Odile Cohen qui prête sa voix un petit peu plus tôt à Gisèle Pellicot dans le livre « Et la joie de vivre ». Ok, on va rester un petit peu dans le même thème parce qu'on va rester dans « Fille-mère » de Ingrid Falaise. On vient de parler de cette femme qui arrive mère célibataire avec son enfant. Ingrid Falaise, qui a pour habitude d'écrire des choses qui nous font mal, qui, elle aussi, elle y a goûté, comme on dit, elle n'a pas eu la vie facile. Cette fois-ci, elle nous raconte cette histoire, fille-mère, qui se déroule en 1960, à l'aube de la Révolution tranquille. On est avec Marie, 14 ans, qui va découvrir qu'elle est enceinte. Arrive ce qui doit arriver dans ces cas-là à cette époque-là. On l'envoie dans un couvent parce que c'est la honte totale pour elle, mais aussi pour son entourage. Et on estime qu'au couvent, elle va payer pour sa faute. On la dépossède d'absolument de tout. On lui arrache son nom, sa dignité et enfin, on va lui arracher son bébé une fois qu'elle aura accouché. Et cette jeune femme va passer le reste de sa vie à tenter de guérir de lui. J'ai un commentaire pour vous, un véritable coup de cœur signé Linda sur le site de Babelio. L'auteur donc, elle raconte Marie, etc., le fait qu'on les faisait souffrir, mais elle dit la vie va continuer malgré tout pour elle, avec un conjoint, une famille, mais toujours il va y avoir cette question, où est mon bébé? Et elle dit, Linda, cette histoire nous brise le cœur, je peux vous dire que j'ai versé des larmes pour Marie, pour ce petit bébé, mais également pour toutes les Maries qui sont passées par là, parce qu'il y en a eu des tonnes. Avec sa plume qui vibre d'émotion, je vous présente un extrait de ce livre d'Ingrid Falaise, lu par Ingrid Falaise et lu ici au studio Bulldog à Longueuil. Donc c'est une production toute québécoise, un extrait de Fille-mère.
Il y a une croix au-dessus de ma tête et je la fixe avec toute la hargne qui m'habite. La fille dans le lit d'à côté gémit comme une vache qui met bas. C'est ce que nous sommes. Des truies, des vaches, des sales, des indignes. Je me suis juré qu'aucun son ne sortirait de ma bouche. Je leur donnerai pas le plaisir de m'entendre souffrir. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on souffre. Mes lèvres gercées sont crispées. La sueur perle sur mon front et coule le long de ma colonne vertébrale. Ma chemise de nuit blanche est trempée. On discerne mes seins à travers le tissu mouillé et mon immense ventre m'empêche de voir ce qui se trame entre mes jambes. Mes genoux repliés tremblent au-dessus des étriers où sont posés mes pieds. La douleur est insoutenable. Mes os semblent se briser tous à la fois. Mon bas-ventre se tord. Mes nattes blondes collent au lit souillé. Mes cheveux piquent mon front que personne n'éponge. Dans ce vaste dortoir, nous accouchons. Je suis une fille-mère. Je m'appelle Marie, comme la Vierge. Pousse, c'est ce qu'on me dit. C'est l'heure de pousser. Je n'ai plus la force de me contracter à nouveau. Je n'ai plus de souffle, ni de volonté. Je sais qu'on va t'enlever et t'amener loin de mes bras. Je veux te garder encore un peu à l'intérieur de mes entrailles, sentir tes pieds me secouer, te chanter la chanson que je t'ai composée pour que t'entendes l'éclat de ma voix. Je veux que tu saches que je suis là, toute là pour toi, mon bébé. À l'aube de mes 15 ans, je sais que je vais être ta maman. Je le suis déjà, et pourtant, on va t'arracher à moi. Les infirmières se sont approchées. Elles parlent entre elles alors que je m'épuise de peine, comme si je n'existais pas. Elles ont l'habitude. Nous sommes des dizaines à enfanter ici, en secret, dans cet établissement, loin de la honte. Je m'accroche au rebord du lit et me contracte. Mon cou s'étire. Ma tête se renverse. Je ravale mon cri, car je ne peux plus te retenir. Une infirmière me toise avec dédain. Elle quitte mon chevet rapidement. J'aurais besoin de toi. Où est ta main? Pendant que mon corps brûle, pourquoi es-tu si loin? J'aurais souhaité que tu me chuchotes à l'oreille que ça va bien aller. J'aurais rêvé que tu me berces doucement. J'aurais voulu que tu me flattes la joue et que tes grands yeux verts me réconfortent. Un homme en sarrau blanc se dépêche vers mon entrejambe. Je sens une main se glisser entre mes cuisses. Il me coupe, m'entaille à froid. Le geste est brutal. Ses mains lacèrent ma peau pour que je me rappelle le péché, me dit-il. J'entends sa voix donner des directives aux infirmières. On voit sa tête. Je ferme les yeux et j'agrippe le matelas. Je ne peux pas retenir mon cri. Il se marie au tien. Tu glisses vers des mains inconnues et je passerai le reste de ma vie à m'ennuyer de toi.
Une autre réalité de femme pas facile en ce début d'émission. Excusez-la, mais que voulez-vous? Il y a des fois où ça tombe comme ça, vous savez, il y a beaucoup de hasard aussi dans la fabrication d'un balado comme celui-là. Et ben là, c'est ça. Après Gisèle Pellicot, Ingrid Falaise, et pourquoi pas non plus. Il y en a qui utilisent toutes sortes de moyens pour se raccrocher à la vie. La Bible et la religion catholique en est un. La Bible qui est, dit-on, le livre le plus lu, le plus vendu partout dans le monde, et ce, depuis des siècles et des siècles. Amen. Et je lisais qu'en Irlande, on venait de constater qu'il y avait une hausse de 11% des ventes dans la dernière année. Chez qui? Chez les jeunes de 18 à 24 ans. C'est fou. Et les chiffres résonnent au-delà de Dublin. Rien qu'aux États-Unis, les ventes de la Bible ont atteint 19 millions d'exemplaires en 2025, soit 12% de plus. Et c'est vraiment... Alors, évidemment, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi ce record? Pourquoi la jeunesse se rue-t-elle en ce moment sur la Bible? On se dit certainement, en tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de spécialistes, que l'actualité mondiale est rude, très, très rude. On en sait encore quelque chose en ce moment. Ça pète absolument de partout et... on se dit que peut-être des gens peuvent apporter des réponses et peuvent obtenir un petit peu d'espoir par les lignes de la Bible. Voici le tout début de la Genèse numéro 1 de la Bible, alors que Dieu va créer pour tout ça.
Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer, l'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. »
Remplissez la terre et soumettez-la. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Ah là là. Bon, alors, c'est ça. Donc, la Bible, très achetée en ce moment par les jeunes qui ont besoin de se réconforter. Et pourquoi pas, hein? C'est aussi sa vertu et sa mission, qu'on soit d'accord ou non, si ça peut faire du bien pendant ce temps-là, si ça peut nous permettre de ne pas prendre les armes. Ça ne peut qu'être bon. Je vous rappelle que vous écoutez le balado des livres plein les oreilles. J'ai l'occasion de vous faire entendre des titres en version audio. La Bible en fait partie, ainsi que tous les autres dont je vous parlerai en seconde partie, notamment avec Gérald Cousineau, notre chroniqueur, qui est déjà d'ailleurs au bout du fil, je le sens, et qui trépigne d'impatience à l'idée de venir nous parler d'un livre de Monsieur Tesson, si je ne m'abuse, Philippe de son prénom. C'est toujours Clotilde Saye en votre compagnie, appuyée par Mathieu Tessier de l'autre côté en régie et mon ami Gérald Cousineau qui est en ligne. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde, bonjour Mathieu.
Alors mon ami, aujourd'hui, on a fait dans le pas très jojo en première partie, c'était des sujets difficiles avec notamment le livre de Madame Pellicot, cette femme qui a été,
oui.
Voilà, exactement, donc je ne raconterai pas à nouveau son histoire. Il y a eu aussi le dernier livre d'Ingrid Falaise, Fille-mère, et puis là il y en a un qui n'est pas évident non plus, mais
non.
Qui je pense était utile, il fallait l'écrire, voilà.
Oui. On parle de Philippe Besson, bien
oui.
sûr. Donc, vous parlez de mon père. Je signale que parler ici est au mode infinitif, donc parler ER.
De mon fils,
Besson, c'est
peut-être.
Un écrivain prolifique, hein, né en 1967, donc il aura bientôt 60 ans.
Mm-hmm.
Il a beaucoup écrit, plus d'une vingtaine de romans. Et moi, je me rappelle très bien, j'en ai lu plusieurs, mais un en particulier, en 2023, je pense, qui s'appelait « Ceci n'est pas un fait divers ».
Ouais,
c'était pas jojo, ça non plus, mais ça frappait dur. C'est un livre sur un féminicide.
Ouais.
Et là, il nous arrive avec « Vous parlez de mon fils » et, bien sûr, c'est un livre sur le harcèlement scolaire et le suicide.
Mmh.
Alors, quelques mots avant de faire écouter l'extrait. Eh bien, à Saint-Nazaire, je crois que c'est dans l'ouest de la France, dans le nord-ouest de la France, peut-être Saint-Nazaire.
Oui, oui, absolument. C'est la Bretagne. C'est,
voilà, donc, il voilà. Y a une marche blanche, une marche pacifique qui est organisée pour rendre hommage ou honorer la mémoire de Hugo, un adolescent de 14 ans qui s'est suicidé après avoir été longtemps harcelé par deux petites brutes de son école. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est le père s'appelle Vincent, mais c'est lui qui va raconter cette histoire-là. Donc, c'est un peu désordonné, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais allons d'abord écouter, on aura une meilleure idée de ce qui se passe dans cette marche blanche.
Le premier qui s'en est pris à Hugo se prénomme Matisse. C'est lui qui s'est moqué de son t-shirt. Est-ce que ce coup de griffe lui est passé par la tête dans l'instant, ou est-ce qu'il y pensait depuis quelque temps? A-t-il désigné sa proie au hasard, ou l'avait-il repéré à l'avance? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'il a trouvé aussitôt un complice en la personne de Ryan. Il faut dire qu'ils étaient inséparables, ces deux-là, ayant grandi dans le même quartier, fait les 400 coups ensemble. C'est ainsi que les parents qualifiaient leurs méfaits précédents quand on les a interrogés, comme si mettre le feu à des poubelles, chourer dans un supermarché, rouler en scooter à 12 ans et sans casque qui plus est, c'était faire les 400 coups. On les a grondés, hein, mais vous savez ce que c'est, les mômes, à cet âge-là, a objecté l'une des mères. Je l'ai déjà mentionné, tout leur acharnement a découlé de cette première moquerie. Devant l'apathie de mon garçon, ils se sont cru autorisés à continuer, à proférer d'autres sarcasmes, à le ridiculiser de plus belle. Quand Hugo touchait un objet ou une porte, il s'approchait et mimait l'usage d'un désinfectant. Et si Hugo tentait de s'en offusquer, il haussait les épaules. « Faut pas le prendre mal, tête de bite !» s'écriait-il, avant de s'éloigner en ricanant. Peu à peu, les attaques se sont multipliées. Dans la cour, lorsque les pions regardaient ailleurs, dans les couloirs au milieu de la foule, dans les cages d'escalier, dans la salle de classe, quand le prof avait le dos tourné, c'était des cheveux tirés, des petites claques derrière la tête, des bousculades intentionnelles, des croche-pieds, des boulettes de papier lancées au visage, et même une fois, un compas.
Ouais.
Un compas.
Un compas. Non, mais il faut...
Incroyable.
Hein? C'est fou quand même, ouais.
C'est ça la marche, c'est une marche blanche, comme on l'appelle, une marche pour honorer la mémoire de ce jeune homme, 14 ans, Hugo, donc, qui se suicide chez lui, dans sa chambre, parce qu'il en a vraiment marre. Il a tellement peur de ce qui lui arrive qu'il n'ose pas en parler à ses parents. Donc, c'est ce que nous raconte le père, je l'ai dit, c'est le narrateur. Donc, tout ça nous est rapporté de façon un peu désordonnée, mais c'est volontairement désordonné, parce que le père essaie justement de remettre de l'ordre dans une situation qu'il a vraiment fait, enfin, qu'il a déboussolé, ainsi que sa femme Juliette, c'est normal. Donc, il essaie de remettre de l'ordre, il nous rapporte tout ça, un peu tout croche, mais ça n'en fait que rendre ça plus poignant encore. Et moi, j'ai eu la chance, ben, comme votre lecteur est très bon, j'ai eu la chance, moi aussi, d'écouter le livre avec un très bon lecteur. Et à ce point, que j'ai eu l'impression d'écouter le père lui-même, tellement c'était bien lu.
Mais
je sentais le lecteur souvent ému. Et il y a une scène incroyable quand le père est écœuré de savoir ce qu'on réserve à son fils, parce que le fils a fini par avouer à ses parents qu'il était harcelé par deux collègues de classe, deux camarades de classe, camarades entre guillemets. Et ben, il va voir le principal, sa femme et lui vont voir le principal de l'école. Et là, c'est à nouveau une scène incroyable. Mmh. Le principal marche sur des œufs, il ne veut pas s'engager trop. Mmh. Et on sent la colère de Vincent, du père, qui se retient pour de ne pas sauter sur le principal. Et nous, comme lecteurs, on dit « Oui, fais-le, c'est incroyable. Oui, » J'ai marché à fond, mais en même temps, c'est d'une tristesse. Mais c'est fait, ce roman-là, c'est fait avec une délicatesse infinie. Il n'y a pas de charge. Il y a des personnages qui ne sont pas très sympathiques. On pourrait à la rigueur reprocher peut-être à l'auteur d'avoir fait un principal vraiment détestable, d'avoir fait deux camarades vraiment sadiques. Mais on sait malheureusement que c'est vrai.
Ah oui.
Le harcèlement scolaire, ben ça, on ne l'a pas inventé, ça existe. Et on sait qu'il y a eu des suicides à cause de ça.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un livre dur dans ce sens-là. Mmh. Mais c'est un livre, encore une fois, je l'ai souvent dit, de certains livres, c'est un livre nécessaire.
Il faut
prendre conscience de ce phénomène. Mmh. Il faut le dénoncer, parce qu'on ne le dénonce pas assez. Alors, dans ce livre-là, il raconte l'inertie de l'administration. On ne veut pas trop bouger. Les parents des deux élèves sadiques défendent leurs bambins parce qu'ils ne les imaginent pas comme ça. À la maison, évidemment, ils ne sont pas comme ça. Mais à l'école, ils sont comme deux jeunes loups déchaînés. Et tout le monde se tait. Les camarades de classe ne disent rien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire des ennemis de ces deux-là. Ah, c'est choquant. C'est vraiment enrageant. Mais du fait même que c'est enrageant, je me dis, le lecteur ne peut pas être autrement que choqué, évidemment. Mais plus sensible à ce genre de choses, comme votre dame dans la première partie qui racontait, bien sûr, ce que son mari lui a fait subir, on ne peut pas rester insensible à ça. Et Besson, c'est ce genre d'auteur qui va souvent mettre le doigt sur le bobo. Il le dit dans une entrevue, qu'il aime rendre les absents aux vivants. Il aime dénoncer l'injustice. Et c'est vraiment ça. Il dénonce de la première à la dernière page, par la voix du père, par la voix de Besson, l'injustice incroyable auquel a été soumis ce fils, qui était malheureusement pour lui très, très mince, ça faisait un peu efféminé. Alors imaginez deux petits machos qui tombent là-dessus et ils ont fait une fête ça, malheureusement.
Je saute un petit peu sur parce que vous parlez de Monsieur Besson et la façon dont il en parle et le côté essentiel de son bouquin. Je voudrais dire aux auditeurs de Canal M que il sera notre invité ici en studio le 8 avril prochain. Je ne sais sur quelle émission, Mathieu va me le dire.
En fait, c'est un pré-enregistrement qu'on fera le 8. Je ne sais pas encore exactement, mais ce sera avec Denis Martin.
Avec Denis Martin, et puis moi, ce que je ferai, c'est que peut-être que je demanderai à Denis Martin s'il me donne l'autorisation peut-être d'en prendre un petit bout qu'on pourra diffuser ici à l'émission. Hein, c'est chouette, il sera à Montréal et il a accepté l'invitation de Denis. Alors donc, c'est ça. Ce qui est bien aussi, et tu l'as dit très justement, lui-même n'est pas un bouli dans l'écriture, Besson, parce qu'il pourrait, être complètement irrespectueux, il pourrait leur rentrer dedans. Or, non, en fait, il est dans sa peine, dans son incompréhension.
Oui.
Il est au fond de sa tête qui est une espèce de bouillie. Enfin, il comprend rien.
Voilà, il est tout mêlé là-dedans. Il dit lui-même qu'il est un mauvais père parce qu'il n'a pas su réagir à temps. Et la mère a un peu la même réaction. Mais en même temps, il fait du cheminement, il fait beaucoup dans cette simple petite marche. Il va cheminer, lui, à sa façon, dans sa tête. Il va faire un bon bout de chemin. Et là, tout ça va s'agencer, finalement. Et à la toute fin, bon, c'est pas un punch, je peux bien le dire, il parle à son fils Enzo, parce qu'il a un autre garçon, il demande 9 ans, celui-là. Et le petit garçon demande il lui demande que la prochaine maison ait un jardin. Ça n'a l'air de rien, ça. Là, nous sommes après la mort, bien sûr, de Hugo. Il demande à son père si la prochaine maison pourrait avoir un jardin. Et là, le père le lui promet. Eh bien, juste cette petite chose-là, ça met du soleil. Ça met un tout petit espoir sur une histoire quand même épouvantable.
Mais
j'ai bien aimé cette fin-là.
La vie continue.
Voilà, la vie continue. Et Besson n'a pas écrit que ce genre d'histoire, bien sûr. Mais si vous ne connaissez pas du tout cet auteur-là, il y a quand même quelques autres livres qui valent la peine d'être lus parce qu'il est, encore une fois, prolifique. Et parfois, on tombe sur une petite pépite comme celle-là. C'est dur, encore une fois, je ne le dirai jamais assez.
Est-ce que tu as quelques titres à nous suggérer, Gérald?
J'en ai encore lu 2 ou 3 cette semaine dans le cadre de cette chronique.
J'aurais dû te demander avant. Mais, regarde, je veux pas te mettre, de toute façon.
Ce qui est bien avec Besson, par contre, c'est que plusieurs de ses livres sont j'en ai compté une vingtaine qui sont disponibles en format audio. Donc, parce que toutes sont là,
en
format audio.
Bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire prochainement un spécial Besson. Ça m'arrive de faire ça, de diffuser plusieurs extraits de livres et je trouve que ce monsieur Besson mériterait effectivement qu'on l'entende un petit peu plus et qu'on ne saurait que trop recommander la lecture de ses bouquins. Est-ce que la culpabilité chez les parents est très présente parce qu'ils ne s'en rendent pas compte au début?
Chez les parents, et non pas chez les parents des bourreaux. Mais chez Lévi, oui, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que, mais il faut dire que Hugo ne parle pas. Il avait tellement peur d'avouer à ses parents qu'il était harcelé. Mais à un moment donné, il va craquer, il va pleurer. Mais après, il ne veut pas que ses parents s'en mêlent. Il va en vouloir à sa mère parce que sa mère est allée voir les parents des jeunes bourreaux. Il est fâché contre sa mère. Et malheureusement, et on sait, il va porter plainte. Le père, les parents vont porter plainte. Malheureusement, ça ne donnera rien. Les jeunes seront grondés, mais pas plus.
Pas
ils vont
plus que
continuer
ça.
À faire leur... Voilà,
et du côté des parents remarqués, tels parents, tels enfants, diront à la limite, ce sont peut-être eux-mêmes des gens qui ont fait du mal dans les cours d'école, les parents.
Le roman ne le fait pas comprendre, ne le dit pas comme ça, mais évidemment, ils défendent leurs bambins parce que leurs bambins à la maison ne se comportent pas du tout comme ils le font à l'école. Mais ce qui est bien aussi, c'est que... il y a une solidarité dans cette ville de Saint-Nazaire. Et le père dit même que c'est une ville ouvrière, parce que lui-même, c'est un ouvrier, hein, c'est un chaudronnier taulier.
Oui,
alors, il est un simple ouvrier. Donc, mais ils sont plus de 1000 à faire cette marche. Donc, vraiment, ils sont épaulés par bien des parents. Alors, ça, c'est touchant aussi. Ça, c'est très touchant.
Merci beaucoup, Gérald. Je voudrais m'excuser auprès des Bretons. C'est plutôt en Loire-Atlantique, donc c'est en dessous de la Bretagne. Mais comme j'ai entendu jusqu'ici des gens, ils m'ont dit « Non, on n'est pas des Bretons !» Non, mais merci beaucoup parce que je suis allée... en ce moment, j'écoute le livre sur Spotify qui est disponible. Et il me reste 30 secondes.
Oui, oui.
Peut-être pas pour le bouquin, mais là, tu me dis, Gérald, d'avoir été très, très touché par le lecteur. Et moi, ça me fait toujours, à chaque fois, j'ai envie de te dire, mais Gérald, je vais t'en envoyer des livres qui sont lus par autre chose que des voix de synthèse. Et toi qui déjà les apprécies tellement, tu me fais plaisir en me disant que là, parce qu'une voix de synthèse, il n'y aura jamais d'émotion. Jamais. Alors,
il y en a,
et pas trop.
Oui, le lecteur même, parfois, va bafouiller un tout petit peu. Mais ça ne m'a pas dérangé. J'ai eu l'impression, encore une fois, que c'était le père qui parlait.
Exactement.
Vraiment, la voix était tout à fait celle de... J'imaginais très bien le père avoir cette voix-là.
Absolument. En tout cas, regarde, si à un moment donné, tu as l'occasion... je te dis, tu peux même t'inscrire sur Spotify, tu peux même aller sur YouTube, il y en a plein de livres audio maintenant, c'est assez incroyable.
On peut y avoir accès facilement quand on n'est pas un as en informatique.
Non, on peut y avoir accès absolument facilement quand on n'est pas un as. Alors, écoute, il faut à tout prix que tu m'invites à prendre un café un de ces jours, puis que je te montre tout ça, ça n'a pas de bon sens.
Mais c'est très gentil.
Il faut que tu te fasses le quoi de me faire le café.
Oh, ça sera du Porto.
Ah non, je ne bois plus, mon ami. Terminé. On passe à autre chose. Allez, je t'embrasse et je te remercie encore. À chaque fois, c'est passionnant de t'entendre parler de ces livres que tu partages avec nous à l'émission depuis 10 ans. À peu près,
oui,
que tu es là tout le temps.
Et
même plus, parce que tu étais, je pense, de la première saison, donc ça fait 12 ans. Eh bien oui, on n'était pas encore des vieux schnocks, mais maintenant, ça y est. Allez, salut Gérald. Bonne fin de journée, bye bye.
Toi aussi.
Il m'arrive, quand je vous présente des nouveautés, de n'avoir aucune espèce d'idée, a priori, de ce que seront ces nouveautés, parce que je ne connais pas l'auteur, parce que je n'ai pas lu le bouquin, et vous imaginez bien que je ne peux pas tous les découvrir, que ce soit sur papier ou en audio. Mais ce qui est sûr, c'est que j'écoute avant. Et il s'avère que là, j'ai deux bouquins que j'avais très hâte de vous présenter. C'est « À pied d'œuvre » de Franck Courtès, c'est lu par Bastien Bouillon. C'est un type, d'ailleurs, il le raconte lui-même, je ne vais pas trop vous en dire, mais il décide à un moment donné d'abandonner sa première passion qui est la photo pour s'adonner à sa seconde passion qui est l'écriture, la littérature. Mais voilà, ce n'est pas évident, hein. Il faut vivre, il faut se nourrir, il faut se loger. Et quand on travaille de sa plume, laissez-moi vous dire qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont privilégiés de pouvoir y parvenir. Alors, le résumé que l'on m'a donné dit ceci, mais quelle mouche l'a piqué ? Eh bien, dans l'extrait qui suit, il va répondre à toutes vos questions. Extrait de « À pied d'œuvre », c'est signé Franck Courtès, encore une fois, et c'est signé Bastien Bouillon. C'est plus un essai qu'un roman, mais ça se lit comme un roman.
faudrait prévenir, mettre un panneau. Cela exige une grande volonté. Achever un texte ne veut pas dire être publié. Être publié ne veut pas dire être lu. Être lu ne veut pas dire être aimé. Être aimé ne veut pas dire avoir du succès. Avoir du succès n'augure aucune fortune. Le succès d'estime, le plus fréquent de tous, ne suffit pas à faire vivre un auteur. Nos bas de laine ne s'emplissent que d'espoir. Sauf exception, et comme dans toutes les industries artistiques, les ventes tiennent moins au talent des auteurs qu'à celui de leurs attachés de presse, moins à la qualité de l'œuvre qu'à l'ambition commerciale des éditeurs. Au contraire du sport, où seuls les meilleurs, désignés objectivement par la mesure mathématique de leur performance, montent sur le podium. Pour autant, les écrivains sont inaccessibles au découragement. Leur prodigalité et leur très grand nombre attestent d'une inépuisable espérance. Beaucoup d'entre eux, comme je le fais en ce moment, jettent leur dernière force dans l'aventure. Ils rampent par légions entières sur les chemins du succès, à plat ventre bien souvent, vers l'horizon incertain de la réussite, ensorcelés par le son frémissant des lauriers, comme les limaces par l'odeur des salades. J'ai tenu mon rang d'artiste-auteur-photographe durant 26 ans. Depuis que la photographie s'est invitée partout, dans le moindre recoin de nos vies, son goût m'en est passé. Un peu comme celui du saumon, depuis qu'on le trouve en supermarché. Incapable de renouveler mon inspiration, je m'appliquais à reproduire des images que j'avais déjà produites, comme on reproduit de vieilles recettes de cuisine. J'étais devenu ce magicien fatigué qui épuise jusqu'à la corde ses meilleurs tours de magie. J'ai longtemps attendu avant d'en finir avec la photographie, pour bien m'assurer que ma déception n'était pas une simple humeur passagère. Je craignais, en l'abandonnant trop tôt, que m'assaillent plus tard des regrets. J'ai attendu que les commandes se tarissent pour donner à ma déroute l'éclat de l'abandon. Tel l'orgueilleux qui prétend quitter un conjoint qui ne le désire plus depuis longtemps. On ne peut s'empêcher d'éprouver de la rancune envers un métier que l'on a tant aimé, que l'on a souhaité différent de tous les autres et qui se révèle soumis au même marchandage qu'une halle aux poissons et à une trivialité dont on le croyait épargné. Le plaisir de mobiliser de la sensibilité, de l'intelligence, à un regard, se voyait engourdi par la répétition du procédé, littéralement rabougri. Au 3000e portrait de star, à moins qu'il ne s'agisse du 1000e reportage à l'étranger, où mon œil devenu stupide s'échinait à éclairer le public de ma supposée vision des choses, en partie téléguidée par des rédactions, elles-mêmes au service d'actionnaires comptables, je me suis enfui en littérature. Mon premier avaloir littéraire, de 4000 euros brut, a partagé mes sentiments. La somme était belle mais insuffisante pour entreprendre 2 années supplémentaires d'écriture. Cependant, rien ne pouvait altérer une passion artistique avec laquelle j'avais flirté à mes débuts de photographe et qui se réveillait intacte à présent dans la littérature. Chaque matinée de ma semaine est consacrée à l'écriture d'un livre en cours. Tout commence par un silence à bâtir. Puis, 3 ou 4 heures filent sans que je me rende compte du temps qui passe.
Faut le vouloir écrire. Hein. On est nombreux à se dire « Ah, il me semble qu'un jour j'écrirai un bouquin. Discipline, discipline, tout, c'est ce que dit tout le monde. Hein. Discipline, discipline, discipline. Même quand tu n'as rien à dire, assis-toi et travaille et bosse et couche des mots les uns derrière les autres. Et oui, il n'y en aura pas de facile, comme on dit. Vous avez entendu un extrait de « À pied d'œuvre » de Franck Courtès, lu par Bastien Bouillon. Le deuxième, j'aurais envie de vous parler d'un livre dont on a parlé à la soirée des Césars. C'est la remise a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. Vous savez que ce sont les prix français du cinéma, cinéma français. Et d'ailleurs international, il y a un prix aussi du film international, je ne sais plus. En tout cas, bref, toujours est-il, ce sont les prix français pour le cinéma. Et il y avait un paquet de très, très, très bons films qui étaient en lice cette année, et notamment beaucoup de films qui émanaient directement de livres. L'étranger, entre autres, dont je vous ai déjà parlé à cette émission-là, et le nouveau film de François Ozon, qui est très, très fidèle au livre de Camus. Et puis, il y a celui-ci, qui a valu à Nadia Meliti le rôle principal de recevoir le César du meilleur espoir féminin. Donc c'est pour son rôle dans La Petite Dernière, et c'est une adaptation du roman de Fatima Das qui a été édité en 2020 aux éditions Noir sur Blanc par Afzia Herzi. Le récit du film et du livre, eh bien, on suit une jeune femme qui est issue d'une famille d'origine algérienne qui est confrontée à la tension entre foi, identité, désir et le cadre familial. C'est un long métrage qui a également reçu le Goncourt du cinéma, le prix Louis Deluc 2025. Donc c'est un roman dont on a déjà dit, et je l'ai lu dans certaines critiques, que c'est un roman hors norme qui met parfois mal à l'aise, mais qui enchante aussi par son aspect originel, et son caractère répétitif. Cette petite dernière aussi, Fatima, algérienne, islamiste donc, se rend compte à un moment donné qu'elle préfère les femmes. Il faut dire qu'elle a été élevée toute sa vie, le père aurait voulu un garçon, elle a été élevée toute sa vie comme un gars, ben, ça finit à un moment donné peut-être par lui jouer, je ne sais pas, sur le cœur et sur le corps, mais c'est comme ça. Alors, c'est un film à voir. Je pense qu'au moment où je vous parle, au moment où j'ai préparé cette émission, La Petite Dernière était encore sur nos écrans. Le sera-t-il encore au moment de diffuser ce balado? Je l'espère. Sinon, ça finira bien par passer. On écoute un extrait. Ça va passer à la TV, c'est sûr.
Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Wasser, en arabe algérien. On dit darja, darija, pour dire dialecte. Wasser, salir, foutre la merde, noircir. C'est comme se rapprocher, en français. C'est polysémique. Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements, le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Là où l'on ne pouvait pas mettre les pieds, ni la main. Ma mère détestait que les choses ne soient pas remises à leur place. Il y avait des codes dans la cuisine, comme partout ailleurs. Il fallait les connaître, les respecter et les suivre. Si l'on n'en était pas capable, on devait se tenir à l'écart du royaume. Parmi les phrases que ma mère répétait souvent, il y avait celle-ci. Ma kenchli rawen fi hadidar izedolek. Ça sonnait comme une punchline à mon oreille. Il n'y a personne pour t'aider dans cette maison, mais on t'en rajoute. En tordant mes orteils dans mes chaussettes hautes, je rétorquais souvent la même chose. Il faut me le dire si t'as besoin d'aide. Je suis pas voyante, je peux pas le deviner. À quoi ma mère répondait du tac au tac qu'elle n'avait pas besoin de notre aide. Elle prenait bien soin de dire « notre », une manière de rendre son reproche collectif, d'éviter que je ne le prenne personnellement, que je ne me sente attaquée. Ma mère a commencé à cuisiner à l'âge de 14 ans. D'abord, des choses qu'elle nomme « sahline », facile. Du couscous, de la tchouk-tchouka, du djouez, des tagines d'agneau aux pruneaux, des tagines de poulet aux olives. À 14 ans, je ne savais pas faire mon lit. À 20 ans, je ne savais pas repasser une chemise. À 28 ans, je ne savais pas faire de pâte au beurre. Je n'aimais pas me retrouver dans la cuisine, sauf pour manger. J'aimais bien manger, mais pas n'importe quoi. Ma mère cuisinait pour toute la famille. Elle élaborait des menus en fonction de nos caprices. Je refusais la viande. J'avais du poisson. Mon père ne pouvait pas faire sans. Son assiette n'en manquait pas. Si Dounia, ma grande sœur, avait envie de frites plutôt que d'un repas traditionnel, elle l'obtenait. D'aussi loin que je me souvienne, je vois ma mère dans la cuisine, les mains abîmées par le froid, les joues en creux, en train de dessiner un bonhomme avec du ketchup sur mes pattes, décorer le dessert, préparer le thé, ranger les poêles dans le four. Il ne me reste qu'une seule image.
nos pieds sous la table, la tête dans notre assiette. Ma mère au fourneau, la dernière à s'installer. Le royaume de Kamardas, ce n'était pas mon espace. Je m'appelle Fatima Daas. Je porte le nom d'une clichoise qui voyage de l'autre côté du périph' pour poursuivre ses études. C'est à la gare de Rhin-Civil-Momble que j'attrape le journal direct matin, avant de prendre le train de 8h33. Je lèche mon doigt pour faire défiler les pages efficacement. Page 31, en grand titre, « Se détendre ». En bas de la météo, je trouve mon horoscope. Je lis, sur le quai, mon horoscope de la journée et celui de la semaine. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Sigmund Freud. Votre climat astral. Ne vous minez pas si vous ne pouvez pas rendre service à tous ceux qui vous le demandent. Pensez à vous. Réfléchissez avant de vous lancer dans des projets de grande ampleur. Ne confondez pas votre optimisme avec forme olympique. Travail. Il faudra prendre des décisions énergiques. Votre réalisme sera largement votre meilleur atout aujourd'hui. Amour. Si vous êtes en couple, faites attention de ne pas décourager votre conjoint par vos demandes excessives. Si vous êtes seul, vous pourrez rêver au prince charmant, mais ne vous attendez pas à le croiser au coin de la rue.
Voilà les affres d'une jeune Algérienne qui vit à Paris et qui commence à avoir des soubresauts du cœur et des élans qui s'en vont vers les femmes. Et elle est complètement perdue, la petite. C'est un excellent film et un excellent livre. Je vous laisse là-dessus. Fin du balado des livres pleins les oreilles. Merci de l'avoir écouté. C'est Clotilde Sey. À bientôt.